D'accord? Donc en fait, comme on a expliqué la semaine dernière, la raison principale pour laquelle on fait les psukim des Imra, c'est pour le Ashrei. On l'a expliqué aussi hier dans le Mishnah Moura. La raison principale pour laquelle on fait tous les psukim qui est entre le Baruch Shamar et Ishtabar, c'est pour le Ashrei. Et la raison principale pour laquelle on lit le Ashrei, c'est pour le Poteach et Yedecha ou Masbiel Chochai Raton. C'est pour dire que, pour rappeler le fait que Kadosh Baruch Hu nous envoie la Parnassa. Et étant donné que la majorité de la journée, la plupart de la journée, on va être occupé par la Parnassa, donc c'est important de se rappeler dès le début de la journée que quoi qu'il arrive, la Parnassa nous vient d'un Kadosh Baruch Hu. Que c'est à lui qu'il faut demander et que c'est lui qui peut nous aider. Bon. Maintenant, à partir de ce Alléluia, vous savez, le roi David est très très fort dans les poésies. Ouais. À Sarvit, c'est fini, la Parnassa, ça y est. Maintenant, on mange.
La plus grande bracha pour la plus grande. Tu es là pour la Parnassa, c'est Mitra.
Bien sûr. C'est pas que c'est la plus grande bracha, on dit que
c'est
la plus dure. Vous savez, le rabbi Presnel avait l'habitude de dire que de la même manière que dans la journée, on a trois prières. On a Shacharit, Mincha, Arvit. Shacharit, c'est relativement facile. Bon, on vient de se réveiller, on a essayé de se lever à l'heure, on fait Shacharit, bon, on n'a pas encore commencé le boulot. Arvit, c'est aussi relativement facile. On est un peu fatigué, c'est vrai, mais bon, on a déjà terminé le boulot. Mais Mincha, c'est très dur. C'est très dur parce que Mincha, il faut arrêter le travail. Et là, il y a les tsararas qui vont trouver toujours un truc à faire et tu n'as pas besoin de te retourner, c'est déjà la nuit. Ça, c'est surtout en hiver. En hiver, c'est tsararas, il est très fort. Alors, il avait l'habitude d'expliquer au rabbi précédent que de la même manière, dans la vie d'un juif, on a Shacharit, Mincha, Arvit. Shacharit, c'est la jeunesse. Quand on est jeune, tout est relativement facile. Je dis pas que c'est facile, mais bon, c'est pas très compliqué. Ouais, faut se lever tôt, faut se lever de bonne heure, faut travailler, faire les études, c'est relativement facile de servir à Kadosh Baruch Hu. Arvit, lorsqu'on est vieux, qu'on est à la retraite, entre guillemets. C'est aussi relativement facile. C'est plus facile qu'avant. Le plus difficile pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est quand on est dans le monde des affaires. Et qu'on doit rester religieux et quand même gagner de l'argent. D'accord? Et ça, c'est Mincha. C'est le Mincha de la vie et c'est le plus dur. Voilà. Bon. Donc maintenant, on va passer au Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que ce qui est intéressant dans ces Alléluia qu'on va lire, on a 5 psaumes qui vont suivre. Ce qui est intéressant, c'est que le roi David va faire un peu le tour du monde. Très très fort dans la poésie. Et donc, il va faire un peu le tour du monde, et c'est une manière pour nous de réaliser la nature qui nous entoure, de réaliser ce qui nous entoure, et d'être un peu moins égoïste, et de comprendre ce qui se passe autour de nous. Quand on combat énormément l'égoïsme dans cette partie de la Tfila. C'est-à-dire que, vous savez, l'égoïsme, il dit que moi, j'en ai rien à faire de la nature, j'en ai rien à faire de ce qui est autour de moi, moi, tant que j'ai ma parnassa, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, le monde peut s'écrouler, ça ne me dérange pas. Un peu comme ça qu'on peut réfléchir. Et là, on va voir que le roi David va parler de beaucoup de phénomènes autour de l'homme, qui ne sont pas directement liés à l'homme, on va même parler des animaux, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, des animaux qui sont dans la forêt? C'est ni chaud ni froid, j'en ai rien à faire. Mais on va en parler, parce que eux aussi, ils chantent à Kadosh Baruch Hu, et donc on fait partie de la même équipe. C'est comme ça que le roi David voit les choses. C'est que moi, je chante à Kadosh Baruch Hu, eux aussi chantent à Kadosh Baruch Hu, donc on fait partie tous de la même équipe, donc je ne peux pas en avoir rien à faire, ça n'existe pas. Donc on va lire ensemble maintenant le Alléluia. Vous avez Alléluia? Alléluia. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Alléluia?
On glorifie Dieu.
Hallelu. Alors Hallelu en hébreu, les hébraïsants. Yudke, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est bon, monsieur? Alléluia, ça veut dire quoi Alléluia? On va dire le nom de Dieu. Alors, Alléluia, c'est louer Hachem, d'accord? Bon. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Halleli nafshi et Hachem. Louer Dieu, mon âme. Alors, louer Dieu, donc il parle à plusieurs personnes. D'accord? C'est une injonction. Il dit louer Dieu, d'accord? Avec un Z à la fin. Et Alléli Nafshi et Hachem, que mon âme loue Dieu. Donc il est passé d'une injonction à un souhait. Vous avez remarqué la différence ici? Il y a une différence qui est très claire dans le verset. Je répète. Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Avec un Z à la fin. Louer. Donc je donne une injonction de louer. Et après il dit, Alléli Nafshi et Hachem, mon âme va louer Dieu. Alors, ça veut dire qu'il donne une injonction, mais il parle aussi de soi-même. Alors de là, nos maîtres apprennent quelque chose de très important. Que très souvent les hommes, ils sont très bons pour donner des ordres, pour expliquer ce qu'il faut faire, pour très bien expliquer ce qu'il faut faire, mais dès qu'il s'agit de soi-même, on oublie. D'accord? Comme c'est écrit, j'ai lu un pirouche qui dit, c'est écrit que les Bnei Israël, ils sont Am Kshe Oref. Am Kshe Oref, c'est un peuple qui a la nuque dure. Après, on parle de la nuque des Bnei Israël. Alors j'ai lu un pirouche qui dit la chose suivante. Il dit, parce que chaque fois que les rabbins, ils sont en train de réprimander la communauté, qu'est-ce qu'ils voient, hein? Ils voient que la nuque des gens, parce que les gens, ils se retournent pour dire, c'est pas l'autre que tu vises. D'accord? Et donc c'est là, justement, le Halleluia, Halleluia Nefshet Hachem. C'est une injonction. Parce que, rappelez-vous, on s'adresse pas uniquement à soi-même, on s'adresse à toute la nature. On s'adresse à toute la nature, à tous nos coéquipiers, entre guillemets. Mais on rappelle quand même que c'est pas parce que j'ai des coéquipiers que moi je suis pas là. Halleli nafshi et Hashem. Il continue dans le verset, il dit Halela Hashem bechayai. C'est mon devoir de louer Dieu bechayai. Ça veut dire quoi, chayim en hébreu? La vie. Ça veut dire tant que je suis encore vivant. Ça veut dire quoi tant que je suis encore vivant? On est vivant pour l'instant. Alors le roi Salomon dit la chose suivante. Il dit qu'on doit savoir que même si Baruch Hashem tout va bien, mais je vous dis dans les mots de Kohelet, de Kohelet, donc du roi de Shlomo HaMelech, il dit qui gamlo yada a Adam et Ito, qu'un homme ne connaît jamais son heure. Donc on te dit loue Dieu tant que tu peux le faire, parce qu'après quand on arrivera en haut c'est trop tard, c'est fini. D'accord? Quand on arrivera en haut, on peut plus louer à Kadosh Baruch Hu. On dit que les malachim chantent à Kadosh Baruch Hu, mais louer à Kadosh Baruch Hu comme nous on le fait et que ça nous soit comptabilisé comme une mitzvah, quand on arrive en haut, c'est trop tard. Donc je dois le faire tant que je suis vivant. Il y a un autre commentaire qui dit aussi que quand on dit louer Dieu tant qu'on est vivant, la Gemara Brachot nous dit que Rechaim Bechayem Kruim Metim, que les Rechaim de leur vivant ils sont appelés morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts en étant vivants, et il y a des gens qui sont vivants en étant morts. Ça, on dit que les tzadikim, même lorsqu'ils sont partis de ce monde, ils continuent à être vivants. C'est écrit comme ça. C'est ça qu'on continue à les appeler vivants. D'ailleurs, on a appris ça dans la Gemara cette semaine, dans la Gemara de Bava Metzia, dimanche matin. On a appris que la Gemara a dit là-bas clairement. Kor a dit Ben Ishraï. On nous parle d'une personne qui s'appelle Ben Yehuyada. On l'appelle Ben Ishraï. Tu connaissais le mot Ben Ishraï? Bon. On l'appelle Ben Ishraï. On dit le fils d'un homme vivant. Alors la Gemara a dit, mais pourquoi il y a des fils d'hommes morts? C'est quoi c'est un fils d'un homme vivant? Elle dit qu'en vérité, son père était déjà décédé. Son père était déjà décédé. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai Elohim Olam, Shakon Yemidvaro, pour la fois Shalva de Sarah Hana Bdika Batiga. Alors, j'étais en train de dire, la Gemara là-bas a dit, pourquoi? Il y a des hommes qui sont, je veux dire, on peut être le fils d'un homme mort, ça veut dire quoi Ben Ishraï? Et là-bas, la Gemara a dit que son père en vérité était déjà décédé depuis longtemps. Pourquoi on l'appelle Ben Ishraï? Puisque comme son père était toujours présent dans les mémoires des gens, et qu'on continue à respecter son, on va dire, sa tradition. D'accord? Donc, on l'appelait un homme vivant. Donc, on l'appelait Ben Ishraï. Donc, on a des gens qui sont décédés, mais qui sont encore vivants. Et d'un autre côté, on a les Rechaïm, Dieu préserve, qui sont vivants, mais qui sont déjà morts. Et quand il dit ici, Ha'alela Hashem Bechayai, ça veut dire que pour louer à Kadosh Baruch Hu, il faut être vivant. Et que quand je dis vivant, ça veut dire on peut être décédé, mais vivant. Mais d'un autre côté, un rachat, il ne peut pas louer à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il veut dire ici le roi David. Vous voyez comment c'est une subtilité du roi David. Bechayai. Voilà, comme c'est écrit, d'ailleurs, dans le Hallel, on dit, Lo hametim yehalleluka. On dit, ceux qui sont morts ne pourront pas louer Dieu. C'est exactement ça, les commentaires là-bas. Rachid explique, il dit, de quelle mort on parle? On parle pas des morts. On parle des rechaïm. Qu'un rachat ne peut pas louer à Kadosh Baruch Hu. Parce que par définition, un rachat, c'est une personne qui ne pense qu'à sa propre personne. Pour quelqu'un qui est égoïste.
Les gens ne savent pas qu'ils sont rachaïm.
Ah, c'est pour ça qu'on espère ne pas l'être. Et on considère qu'on ne l'est pas, puisqu'on dit je vais louer Dieu tant que je suis encore vivant. Donc je considère que je ne le suis pas. Baruch Hashem. Mais ça veut dire que Lo Hametim Yehalleluka, un mort ne peut pas louer Dieu. Donc on te dit voilà, tu veux louer Kadosh Baruch Hu, faut être un peu moins égoïste. Voilà en d'autres termes.
Je sais pas. Charim, il n'y en a pas beaucoup. Pour être retranché, tout ça. On est comme.
Après, il y a des. La Gemara, dans le traité de Nida, elle recense plusieurs catégories de rachats. On a des rachats presque parfaits, on a des rachats imparfaits, parce que même chez eux, on a les différences. D'accord? Et on dit que la majorité des hommes aujourd'hui rentrent dans la catégorie de rachat vetovlo. Ça veut dire un rachat imparfait. C'est pas un rachat au top. C'est un rachat un peu sadique.
J'ai toujours un truc à prendre.
Donc, Bechayai. On peut voir ça comme ça. Bechayai. Donc, je vais louer à Kadosh Baruch Hu Bechayai tant que je suis encore vivant. D'accord? Ça, c'est le roi David qui dit. Ça veut dire tant que je ne suis pas rachat et tant que j'essaye de pas être égoïste. Azamra l'Elokai Beodi. Je vais chanter à Dieu puisque vous savez que le roi David. Alors, c'est quoi la différence entre Hallel et Zamer? Hallel, c'est chanter avec la bouche. Zamer, c'est Klezmer. Klezmer, ça vous dit quelque chose? Klezmer? D'accord, c'est un orchestre. Klezmer. Alors, c'est Klezmer aujourd'hui.
C'est un style de musique.
C'est un style de musique yiddish. Non, mais je vais vous expliquer. Parce qu'en yiddish, il y a beaucoup de mots, on les dit, qui sont dits yiddish. Mais en vérité, c'est des mots en hébreu. Par exemple, en hébreu, Klezmer. Ça veut dire quoi, Klezmer? Bah, c'est des instruments de musique. D'accord? Mais en yiddish, on dit Klezmer. Klezmer, ça veut dire, c'est une abréviation de Klezmer. Et donc, c'est du coup, aujourd'hui, c'est le symbole de la musique yiddish. Donc, Zemer, c'est quoi? C'est quand c'est un instrument. Et on sait que le roi David, d'accord, jouait beaucoup aux instruments de musique. Donc c'est pour ça qu'il dit, d'abord je vais chanter, Hallel, il va chanter, il va louer Dieu donc avec sa parole, comme nous on fait aujourd'hui, mais Azamra, le Lokai Beodi, je vais chanter à Dieu également, donc je vais chanter, ça veut dire, c'est pas seulement chanter, c'est jouer, pas avec un instrument de musique, Beodi, tant que je suis encore là. D'accord? Dans un autre verset du Tehilim, le roi David dira, Ayesupar bekever chasdecha, est-ce qu'on peut raconter tes louanges lorsqu'on est dans la tombe? Là, on parle vraiment des hommes morts. C'est-à-dire que jusqu'à, ça veut dire que dans la première partie du verset, on parlait d'un rachat qui est peut-être vivant mais qui est mort. Mais là, après, dans la deuxième partie, berodi, rodi, en hébreu, ça veut dire quoi? Rod? Rod, ça veut dire quoi? Rod. Avec un aïn. Encore. C'est comme Rod Yosef Rai. D'accord? Berodi, ça veut dire tant que je suis encore là. Tant que je suis toujours là. Rod. Encore.
Quand on dit Rod Maïm, c'est le même mot?
Oui, c'est sûr. Rod, encore. Rod, ça veut dire encore. Donc tant que je suis toujours là. En français, ça dit toujours. Tant que je suis toujours là.
Tu dis Odechad.
D'accord? Donc voilà. Donc, Baruch Hashem, on a la chance. On a la chance, comme a dit, c'est Patrick, ça commençait par un P. Bon. Alors. Non, je me rappelle du P, mais c'est pas sûr. Alors, on a ici deux choses. Tout d'abord, il faut espérer être là. Bon, Baruch Hashem, on est là, c'est le cas. Et il faut espérer aussi être là spirituellement. Ça veut dire ne pas être rachat. Baruch Hashem, c'est le cas aussi, hein. Je dis, on n'est pas, voilà. Donc, Bechayai, Berodi. De ma vie spirituelle, Berodi, tant que je suis toujours là, physiquement. Al Tiftechou Bindivim. Ah. Là, maintenant, le roi David commence à rentrer dans le vif du sujet. Bon, ça, c'était une intro, tout ça. Bon, louez Dieu, tant que vous êtes là, etc. Maintenant, il rentre dans le vif du sujet. Et il va commencer à analyser le monde qui est autour de lui. Il parle même plus de lui. Il parle du monde qui est autour de lui. D'accord? Donc, on va commencer par les hommes. D'accord? On va commencer par les hommes. Après, progressivement, on ira aux animaux. Après, on ira au ciel. Merci beaucoup. Après, on ira au ciel. On ira en crescendo. Comme ça, chaque fois, on va agrandir le cercle. Donc là, il commence. Donc, on a déjà parlé de soi dans le Hacheret. Dans l'Hacheret, je vais te dire, on a parlé de notre propre personne. On a dit que on doit réaliser constamment que Dieu est là, de nos enfants, etc. Bon, ça, on a parlé dans l'Hacheret, de la transmission. Maintenant, il va commencer à parler du cercle des hommes autour de lui. Donc, il dit la chose suivante, c'est très simple. Il dit, « Al tiftechou bindivim. » N'ayez pas le bitachon bindivim dans des gens qui vous promettent mon émerveil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des gens qui vont nous aider, parce qu'on est dans un monde dans lequel c'est très important de tous s'entraider. C'est pas ça ce qu'il veut dire. Il emploie ici le terme bitachon. Comment ils ont traduit bitachon ici?
Confiance.
Confiance. Ne pas avoir confiance en eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut pas reposer sur des hommes. Jamais. On peut leur demander de l'aide, mais les attachés vont nous aider, mais on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Donc on peut pas avoir bitachon, on peut pas avoir la confiance en eux. Quand bitachon, c'est un terme qui est très fort. Vous savez, c'est quoi la différence entre emouna et bitachon? En hébreu, il y a emouna et bitachon. Il y a la emouna en Dieu, le bitachon en Dieu. Emouna, c'est la croyance, bitachon, c'est la confiance.
Avec la crainte aussi.
Alors, c'est quoi la différence entre la confiance et la croyance? On a dit la croyance et la confiance. Quelle est la différence?
L'espérance, la croyance, et les deux.
C'est très simple. D'accord? Vas-y, oui. Alors, on va commencer par la croyance. C'est quoi la croyance?
L'espérance.
C'est l'espérance. Alors, on va voir. C'est presque ça. Je vais expliquer. La différence entre la croyance et la confiance. Deux choses complètement différentes.
Mais la confiance, elle peut s'enlever un jour ou l'autre. La croyance, c'est...
Alors,
la confiance, très
bien,
c'est
plus sûr. Oui. Bon, c'est des bons points tout ça. Je vais expliquer. Alors, je vais expliquer une situation très simple. Imaginez-vous une personne qui est en galère. Deux options possibles. Première option possible, il est croyant. C'est notre cas à tous. On est tous croyants, fils de croyants. Mais ça veut pas dire qu'il est tranquille.
Non. J'espère que ça va bien se passer.
C'est-à-dire que bon, il espère que ça va bien se passer. Il a aucune idée comment ça va se passer. Il est même angoissé. Il est pas bien du tout. D'accord? Parce qu'il sait pas du tout comment ça... Mais il est croyant. Il croit que tout ce que Dieu fait, c'est pour son bien. Donc il dit, quoi qu'il arrive, même si l'issue ne sera pas favorable pour moi, je pense qu'en vérité, elle est favorable pour moi.
Ça, c'est nous.
D'accord? Ça, c'est croyant. Bon, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est inné. C'est de série, ça. Ça, c'est directement inné. On l'a déjà.
Par contre, il y en a qui sont très anxieux.
Oui, on peut être très anxieux et être croyant. C'est pas une contradiction. Parce que je dis à Dieu, écoute, je vois pas comment l'issue est pour mon bien, mais si tu as décidé que c'est comme ça, ben j'accepte. Bon. La confiance, c'est autre chose. Être confiant, ça veut dire, d'accord, c'est je suis sûr de moi, je suis sûr que j'ai la sensation profonde que ce qui va se passer sera pour mon bien et que je le sens que c'est pour mon bien.
C'est rendu, je suis confiant.
Ça, c'est déjà plus dur. C'est déjà plus dur, d'accord. Ah, vrai, ça serait bien.
Je pense que c'est ça.
D'accord, être confiant.
Quoi qu'il arrive...
C'est plus dans la nature, c'est dans la personne que dans la...
Donc on est confiant. On est confiant que tu baiseras ta chaîne, tout se passera bien. Donc, Al Tiftechou. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, le verset? Le verset ici nous dit, Al Tiftechou Bindivim. C'est-à-dire, quelqu'un, il va t'aider. On a tous besoin, on a de l'aide des hommes. On a tous besoin. On a besoin de s'entraider. On peut jamais travailler seul. Mais, on doit jamais avoir le bitachon dans une personne qui va nous aider. Jamais de bitachon, jamais de confiance. D'accord? Moi, j'ai croyance, je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il m'enverra ce que j'ai besoin par les canaux qu'il a décidés. D'accord ? Moi, je pense que le canal, un bon canal, c'est par ça. Par mon employé, etc. Bon, c'est ça mon canal. Bon, il n'y a pas de problème. C'est le canal que je pense qui est mon canal. Donc, je vais faire le keli pour recevoir la bracha. Mais je n'ai jamais bitachon en ça. J'ai jamais confiance en mon patron. Non, confiance en la confiance qu'est en Dieu. Personne d'autre. Ce qu'il dit, c'est le rendez-vous. D'accord ?
Ici, ils disent des nobles. Il n'a pas répondu.
Il ne
pas avoir confiance dans les
nobles.
Ça va
de soi. Alors, j'ai toujours pas répondu. Hein. Alors,
une divine. Pas juste par noble.
Noble. Ouais. Alors, nadiv en hébreu, ça vient de nedava. D'accord ? Nedava en hébreu, ça veut dire un don. Un don, ça veut dire, c'est le fait que les hommes s'entraident. D'accord ? On parle pas seulement des dons financiers, ça veut dire nedava, ben c'est quand une personne a envie de m'aider. On a tous besoin de l'aide de tout le monde. On peut vivre seul. Mais il faut jamais avoir bitachon. En personne. Personne. Il y a la seule personne à qui on va avoir confiance et être sûr que c'est lui qui va me sortir de la galère, c'est Akadosh Baruch Hu. Sur ça, pas même ma femme. Personne. La seule personne qui sait de quoi sera fait le lendemain, c'est Dieu.
Peut-être les parents. D'accord ?
Personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Par définition, je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un si lui-même ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. D'accord ?
Non, c'est respecter, c'est une chose.
Je respecte. C'est une chose. Mais personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Donc la seule personne en qui je vais avoir bitachon, je fais confiance, je tranquille, de toute façon, quoi qu'il arrivera, c'est Dieu qui a décidé. D'accord ? Moi, je fais ce que je peux. Alors, al tiftechu bin divim, beven adam, et donc pourquoi on va pas faire confiance aux hommes, d'accord ?
Avec ce raisonnement, tu peux t'arrêter aussi de te battre, hein ?
Non, j'ai pas dit ça.
Bah oui, non, mais c'est...
D'accord ? J'ai pas dit ça, j'ai compris.
Au contraire,
moi, je fais le keli, d'accord ? Moi, je fais le keli, moi, je fais ce que Dieu m'a demandé. Mais non ! C'est-à-dire, moi, je fais le keli, maintenant... Comment ça va se passer? J'en ai aucune idée. J'en sais rien. Je sais pas comment ça va se passer. Beven Adam, Shen Loteshua. Donc justement, il dit c'est très simple. Pourquoi on peut pas faire confiance aux hommes? Parce que l'homme lui-même, En Loteshua, ça veut dire que déjà pour soi-même, il n'a pas de salut. Ça veut dire quoi ne pas avoir de salut? Ça veut dire que s'il aura un problème, d'accord? S'il a un problème, il saura pas comment s'en sortir. D'accord? Alors, quand je dis il n'a pas de salut, ça veut dire déjà que cette personne-là, lorsque Dieu préserve, il devra mourir, ben, il va mourir comme tout le monde. D'accord? De la même manière, lorsqu'il aura un problème, ben il sera embêté comme tout le monde. Donc si lui ne peut pas s'en sortir, comment tu veux que lui va t'aider? Alors il va t'aider. Mais avoir confiance en lui que lui va m'aider, ça je ne peux pas. Vous voyez comment le roi David commence à analyser le cercle autour de lui, et le roi David, c'est la bonne personne pour parler parce qu'il a souffert dans sa vie. Et il a eu des gens aussi qui lui ont promis mon merveille. Ils lui ont promis le pouvoir, ils ont dit bah, tu vas voir, on va te nommer roi, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il a eu, il a beaucoup souffert dans sa vie. Et c'est après mûre réflexion.
On a quand même besoin de faire confiance.
Oui, faire confiance, mais pas être confiant dans une personne.
Pas de confiance aveugle.
D'accord ? Ça veut dire, j'ai confiance, je vous fais confiance, vous allez m'aider, etc. Mais jamais être confiant parce qu'une personne m'a dit quelque chose. Non, je suis confiant parce que c'est Dieu qui s'arrangera. Al tiftechu binivim. Parce que il a un raisonnement très simple. Il dit ben Adam, shen lo teshua. L'homme lui-même. D'accord, Ben Adam. Vous avez vu comment on appelle ici l'homme? Ben Adam. C'est quoi Ben Adam? C'est que lui-même il est le fils d'un homme. Il n'est pas né tout seul. C'est pas un dieu. Donc lui-même il est issu de quelque chose. Et cette personne qui est issue de quelque chose, En Lo Teshua, il n'a pas de salut. Ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. Il est issu de quelqu'un. Et En Lo Teshua, c'est-à-dire que le jour où il aura un problème, le jour où il devra partir, il partira comme tout le monde. Donc il a un début, il a une fin. Donc par définition il est limité. Donc s'il est limité, c'est pas en lui qu'on peut être confiant. C'est seulement envers Akadosh Baruch Hu qu'on peut être confiant.
Je crois que le mot bitachon, ça veut aussi le sens de crainte en même temps que la confiance.
Il y a plusieurs
mots. Oui, c'est ça. C'est pas une traduction mot à mot du français.
Bitachon, c'est pas la crainte. Jamais.
Non, bitachon.
C'est la confiance et la crainte en même temps.
Non. Crainte, non.
Traduction littérale de bitachon, c'est traduction littérale de bitachon. Avoir confiance. Votéar. Même en hébreu, hein. Bitachon. En hébreu, quelqu'un qui a de l'assurance. Bitachon. Ça, on lui dit, tu n'as pas assez de bitachon. Tu n'as pas assez d'assurance.
Bitachon, d'accord.
Ouais, bitachon. Je suis. Oui,
il n'a pas jamais de la crainte.
Ça veut dire qu'il n'a pas confiance en soi. Donc en français on dit il n'a pas d'assurance.
Moi je dis crainte en hébreu.
Ira, parad, plusieurs mots. Retet, enfin plusieurs mots. Hein.
Dans l'hébreu ancien.
Non, mais ces trois mots sont utilisés.
Actuel.
Mais c'est vrai qu'en général, en hébreu, c'est vrai qu'aujourd'hui. En hébreu moderne, on utilise plus le terme parhad. L'eau les farhad, animé parhad, parhad.
C'est la peur.
Oui, c'est la peur, c'est pas la même chose. On a fait un cours une fois sur ça. Alors,
voilà, c'est traduit ça, parce que les nobles qui traduisent ça, t'as vu par quoi?
Bah, les nobles, c'est une personne, c'est une, les nobles, ici, ça vient du mot Nedava, d'accord? Nedava, c'est un cadeau, c'est rien qui donne. Donc, quelqu'un de noble, c'est quelqu'un qui est social, quelqu'un qui partage.
Alors, pourquoi une différence d'accord entre cela et les fils de l'homme, c'est aussi des fils?
Non. Il explique après. Il dit pourquoi on peut pas avoir confiance dans un noble, une personne qui m'a sur mon émerveille? Parce que lui-même, il est Ben Adam. Lui-même, il est Ben Adam. Ça veut dire, c'est un fils d'un homme, c'est-à-dire qu'il est issu de quelqu'un. Donc il n'est pas, je veux dire, il n'est pas arrivé tout seul ici, c'est pas un dieu. Et elle le Teshua. Et cet homme-là, bien sûr.
Qui sont les
celui-là, Beven Adam, Shen le Teshua. C'est le fils d'un homme. Il explique le raisonnement. Non, c'est la suite.
Il y a une virgule pour ça. Ils ont une virgule là.
Oui, mais ça veut dire, il dit, Atitrobin Divim, et pourquoi? Parce que qui sont les Divim? C'est le fils d'un homme, donc il n'est pas issu, il vient pas de nulle part. Ça veut dire qu'il démarre de quelque part et il finit quelque part. Donc par définition, il est limité. D'accord? Bah, je suis là pour ça, pour expliquer
pas,
les virgules.
Exactement. Ouais, c'est pas où, c'est...
Non, c'est pas où. C'est pas où, c'est qui l'explique.
Quand tu dis ça, tu penses qu'il y a deux catégories.
Pour pas qu'il y ait de confusion. Que ouais. Un roi ou n'importe quoi.
Voilà, même alors,
le plus haut placé.
C'est Tseroucho. Yashuv Le'admato. C'est ce qu'on vient de dire. Cet homme-là, le jour où son esprit s'en ira, on sait que l'homme est composé de l'esprit et du corps. D'accord? Le jour où son esprit s'en ira, même s'il a les plus grands médecins qui sont là, et qu'il a toujours le corps est toujours là, les membres sont toujours là, Yeshuv l'admato. Il retournera les admato. C'est quoi admato? Adama en hébreu, ça veut dire quoi? La terre. D'accord? Ça veut dire qu'on peut, la seule personne en qui on peut être confiant, c'est Kadosh Baruch Hu. Le plus important dans le corps, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est la neshama, c'est la vie. Le jour où la vie s'en va, même si le corps est là, il ne vaut plus rien. Donc, nous, on accorde beaucoup d'importance au corps. Dans la vie de tous les jours, on accorde beaucoup d'importance au corps. Le corps. Il dit, mais c'est très simple. Il dit, mais le jour où la Neshama s'en va, il n'y a plus de corps. Il y a Shuv l'admato, il reviendra comme tout le monde.
Pourquoi il est dit à sa terre, c'est pas à la terre?
Bah, à sa terre, ça veut dire l'endroit d'où il est issu. Parce qu'on vient de la terre.
C'est la terre de tout le monde.
Oui.
Il a dit sa terre, particulièrement.
La terre en général, la terre, ça représente deux choses. La terre, tout d'abord, ça représente l'endroit duquel on est issu. Parce que l'homme est issu de la terre. D'accord? Adam Harishon était conçu de la terre, premièrement. Mais de manière générale, quand on parle de la terre aussi, c'est comme en français, quand on dit être à terre, c'est synonyme d'être à plat, quoi. D'être écrasé, bon, sous terre. D'accord? Et là, on te dit ici que même cette personne-là qui est très grande, mais le jour où son esprit s'en ira, ben, Yeshuv l'admato, il retournera à sa terre. Ça veut dire quoi, à sa terre? Ça veut dire qu'il sera à plat comme tout le monde. À son plat. Donc, ça veut dire, on parle pas forcément de la mort ici. Je veux bien qu'on comprenne.
C'est ça. C'est
d'accord?
Ça.
On parle pas forcément de la mort. On parle du fait que lorsque Dieu a décidé que l'heure de cette personne est terminée et que son mazel est passé, ben c'est fini. Il sera à plat comme tout le monde. Donc, c'est pas en lui qu'on doit avoir confiance. D'accord? On doit espérer que ça passe par lui. Pourquoi pas? Bon. Ça c'est, pourquoi pas? Y a pas de problème. Mais on n'a pas avoir confiance aux hommes. Jamais.
Tu penses que pas que les divins sont plutôt des gens puissants qui donnent la tzedaka, qui aident les autres.
Ça aussi, oui.
Et que là, effectivement, ces gens-là, un jour ils sont en haut, et demain ils sont en bas.
Mais
ils plus aider.
C'est un bon point. C'est mais on parle justement, on parle pas ici.
C'est
une personne, un adiv en hébreu, c'est une personne qui est bienfaiteur. Donc en fait, bienfaiteur dans tous les sens du terme.
Bon, général, c'est
d'accord.
Il n'y avait que les riches, quoi.
Les riches, voilà.
Les riches, par exemple.
Les donateurs, aujourd'hui.
Oui, grand donateur. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tetzerucho Yeshuv l'admato. Donc, le jour où Dieu aura décidé que son esprit s'en va, Yeshuv l'admato, il reviendra à sa terre. On l'a expliqué. Comme sortir. Vayom ha'u, ce jour-là, d'accord, ce jour-là, c'est-à-dire le jour X, on n'a pas envie de le nommer, mais le jour X où Dieu aura décidé que ça y est, c'est terminé, lui aussi, d'accord, Avdou Ashtonotav, ses pensées seront, d'accord, Ashtonotav, enfin, comment dire, ça veut dire qu'il sera perdu, d'accord, ils seront anéantis, ça c'est en hébreu moderne utile aussi, les Abed Ashtonot, lorsqu'une personne perd la tête, il est perdu, il ne sait plus où il va, on dit qu'il est Me'abed Ashtonot, alors littéralement, les Abed Ashtonot, ça veut dire perdre la direction, d'accord, perdre ses repères. Mais ça veut dire que ce jour-là, le jour X où, où Dieu aura décidé que cette personne, le jour J on dit, où Dieu aura décidé que cette personne-là, ça y est, c'est fini. Abdou Eshtonotav, lui aussi sera perdu comme tout le monde. Donc la seule personne en qui on peut être confiant, attention,
je
reviens, oui mais il est parti quand même avec une teinte 5 d'or.
Il reste de l'Eshtonotav,
dans un canapé.
Il est gros ce canapé.
Il a pris une teinte 5 de dingo dans un canapé.
Oui, j'y crois pas.
C'est ce qu'ils ont dit.
Dans un camion.
Je n'ai pas confiance.
Je vais vous dire plus que ça. Ça, c'est ce qu'on sait.
Oui, bien sûr.
Voilà.
C'est ce qu'on ne sait pas.
Parce qu'il n'a pas besoin de matériel pour voler de la.
Non, il n'a pas besoin de faire du trading.
Les transactions suffisent.
Ça fait des années qu'il est là-bas.
Si ça ne se voit pas, c'est mieux. Canapé, c'est pas mal, pour y penser. Le garçonnier.
Donc, Bayom Haou Avdou Eshtenotav. C'est pour ça que, bien sûr que, on doit, bien sûr que, alors, encore une fois, il y a un autre point, un point très important à dire ici. Il y a des gens, d'accord, vous allez les aider. Vous allez les aider, vous allez leur rendre un service. Et il va dire, je te dis pas merci. Je te dis pas merci. Je te dis pas merci parce que, de toutes les façons, c'est que le kéli pour faire passer la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on revient à un petit peu à la question de Michel. D'accord? C'est krasvé shalom, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. C'est quelqu'un qui nous aide, on doit le remercier, et de manière très forte. D'accord? Comme l'Agmara raconte, l'Agmara Brachot nous raconte, elle dit que Rabbi Shabbat aussi, elle dit que Rabbi Mechabed Ashirim, Rabbi Yudanassi, qui était lui-même très riche, il donnait du kavod aux gens riches. Alors là-bas, les commentaires posent la question, ils disent, mais pourquoi on donne du kavod aux gens riches? Quoi, c'est l'argent, on donne du kavod pour l'argent. Et l'Agmara là-bas explique les commentaires, explique, il dit, c'est très simple, il dit pas du tout. Il dit, parce que si Akadosh Baruch Hu a décidé que cette personne-là va être le vecteur, le keli pour faire passer la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est une personne importante. D'accord? Et c'est que c'est une personne qui a du mérite. Donc, ça ne veut pas dire ici qu'on doit rejeter les gens qui nous aident, Hasvei Shalom. On doit dire, de toutes les façons, tu vois rien, c'est un goy, vous savez, les gens, comme ils aiment parler. C'est un goy, de toutes les façons, c'est un keli, il sert à rien, c'est un préposé. Il est préposé, il est là, il est juste pour rendre service. Hasvei Shalom, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On veut simplement dire que, on doit faire tout notre possible, avoir le, faire le keli, etc. Bien sûr, à 100%. Mais, Al Tiftechou Ben Divim, c'est pas en eux qu'il faut avoir notre bitachon, qu'il faut placer notre confiance. La seule personne en qui on peut placer notre confiance, c'est ni en notre banquier, ni en notre compte en banque, ni en notre argent. La seule personne en qui on peut placer notre confiance, c'est à Kadosh Baruch Hu. Voilà comment le roi David voit les choses.
Peut-être qu'il nous a mis une barrière là en disant, attention, si on fait confiance à un homme, on va peut-être avoir la crainte de l'homme après.
C'est pas une menace. Pas une menace. Il te dit, il est comme tout le monde. Tu crois qu'il est fort, mais demain il sera fait comme toi.
Faut pas dire que c'est lui en fait, c'était pas que un Kelly, c'était lui qui a fait la chose.
Oui.
Et d'oublier que c'est Dieu en fait.
Bien sûr, bien sûr. Oui. Ça veut dire qu'on ne place pas notre confiance en quelque chose de physique. Ça n'existe pas.
Il n'est que le vecteur. Voilà.
D'accord. Il n'est que le vecteur. Alors on va faire notre équilibre, bien sûr. On va placer, etc.
C'est comme le médecin. Il n'y a qu'une seule fois le mot confiance. Et encore, c'est ne mettez pas conjugué, quoi. Tu vois, c'est...
D'accord. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'on doit respecter, on doit honorer, on doit faire tout notre possible. C'est évident, c'est normal. Mais attention, à titre ben divin, notre confiance ne peut pas être placée dans notre compte en banque, ni dans le banquier, ni dans personne. Notre confiance est placée uniquement à Kadosh Baruch Hu. Voilà comment le roi David voit les choses. D'accord.